La première des intervenantes, qui s'appelle Hélène Vial et qui est maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne. Vous avez tous le programme, donc vous avez lu son titre, qu'il faut que je lise en même temps que vous. L'univers selon les métamorphoses de vide. Une interface sensible en proie. Non, c'est pas. Si.
Je fais des signes.
L'univers selon les métamorphoses de vide, une interface sensible en proie à la contamination universelle. Donc vous aurez compris qu'elle est maître de conférence de latin et qu'elle vient en premier lieu répondre parfaitement à votre question et votre interrogation de la métamorphose avec celui qui a peut-être le premier, en tout cas dans notre ère culturelle, pour le dire comme ça, le premier à s'être engagé en scientifique et en poète dans cette question des métamorphoses. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Pas force. Ou alors vous faites défiler gentiment les textes si vous voulez. C'est comme vous préférez. Merci beaucoup. Vous avez aussi quelques exemplaires papier des textes sur les tables. Et je commence par remercier très vivement les organisateurs de ces journées de m'avoir conviée à évoquer et surtout à faire entendre, puisque je vais lire en fait beaucoup d'extraits, ce texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans et qui résonne beaucoup avec les problématiques qui seront abordées aujourd'hui et demain. Peu d'œuvres établissent au point où le font les métamorphoses d'Ovide le lien entre l'espace, le temps, le corps et le cerveau humain. Et très peu le font d'une manière aussi transdisciplinaire, au croisement entre les arts, la recherche scientifique, la démarche philosophique, la réflexion sur l'histoire ou encore la pensée politique. Cette réunion des champs d'activité de l'esprit explique d'ailleurs en partie l'impact du texte à travers les siècles et le fait qu'aujourd'hui encore sa lecture résonne si intimement avec ce que nous vivons. La science valide aujourd'hui la conception du monde exposée par Ovide, et cette convergence prend d'autant plus de sens maintenant que l'humanité a mis en danger ce monde et elle-même en ne respectant pas le grand équilibre du vivant. Il est alors logique et salutaire que cette œuvre soit encore et encore redécouverte en ces temps de bouleversement où l'humanité mondialisée, connectée, informée, mais en même temps déstabilisée, perdue, malade, doit repenser sa place dans un univers dont la recherche scientifique affirme désormais qu'il constitue un ensemble unique, aux éléments organiquement unis par un lien de transformation permanente. Les métamorphoses d'Ovide sont donc l'un des grands textes qui peuvent nous aider à opérer l'évolution cruciale de nos manières de penser et de sentir. Elles le sont peut-être parce qu'elles ont elles-mêmes été écrites à un tournant de l'histoire, alors que les Romains, traumatisés par les guerres civiles et la mort de la République, se coulaient dans l'armature à la fois incroyablement efficace et terriblement contraignante du régime impérial. C'était alors une évolution existentielle qui, à l'échelle du monde, ou d'un monde, Rome, était à réaliser. Le poème d'Ovide a été l'un des socles de cette métamorphose, et il l'a été parce qu'il a pris comme sujet la métamorphose elle-même. J'aimerais le montrer ici, en commençant par définir ce poème comme un chant de la matière enchevêtrée, puis en observant la relation qui est mise en scène entre contamination et métamorphose, et enfin en soulignant le rôle nodal des passions dans cette relation, avant d'esquisser en conclusion les implications multiples du discours neuf et subversif tenu par ce texte en avance sur son temps. Lisons le prologue, texte 1. Je me propose de dire, littéralement, mon esprit me porte à dire, les métamorphoses des corps en des corps nouveaux. Ô Dieu, car ces métamorphoses sont aussi votre ouvrage. Secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Tout est contenu dans cette déclaration audacieuse qui affirme la primauté de l'esprit sur l'inspiration divine dans le processus de la création littéraire. En hexamètre dactylique, vers épique par excellence, c'est une épopée inédite et hors norme qui s'annonce et qui va nous raconter l'histoire non pas d'un héros, mais des formes changées en corps nouveaux. Du premier au dernier vers, le poète se confrontera et nous confrontera exclusivement à la matière et à ses transformations. Et c'est bien dans ce grand drame de la matière en mutation que nous nous trouvons aussitôt plongés. Ovide fait commencer son récit avec le chaos originel, premier état qui est aussi celui du plus grand enchevêtrement, texte 2. Avant la mer, la terre et le ciel qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Aucun élément ne conservait sa forme. Chacun d'eux était un obstacle pour les autres, parce que dans un seul corps, le froid faisait la guerre au chaud, l'humide au sec, le mou au dur, le pesant au léger. Cette lutte originelle du monde contre lui-même restera toujours son aimantation naturelle. Il tendra sans cesse vers le retour à l'emmêlement de tout, à l'absence de séparation entre les éléments, les règnes, les espèces, les êtres. Et cette tendance sera le déséquilibre essentiel, le péril nécessaire permettant toutes les métamorphoses, tous les franchissements de frontières. D'ailleurs, quand au livre 15, Ovide donnera la parole à Pythagore, un Pythagore très ovidien, ce sera à nouveau cette vocation à la confusion et par là à la destruction que le philosophe définira, évoquant notamment dans un passage où on sent la présence provocatrice d'Ovide, la ruine inéluctable des grandes cités, Rome comprise. Mais dans le discours de Pythagore, comme dans l'ensemble des métamorphoses, la destruction ne va pas sans la création. Au sein de la masse de matière qui constitue le monde, la tentation de la fusion et du chaos est constamment contrebalancée par des puissances de séparation et d'ordonnancement. Et c'est la tension entre les deux qui permet la vie, et notamment la vie humaine. Ainsi, le livre 1 nous apprend que l'indistinction originelle doit être structurée, c'est mon texte 3. Un dieu et une nature plus clémente mirent fin à cette lutte. Il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l'air épais. Après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse, en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens de la concorde et de la paix. L'opération est ensuite détaillée, opération dont le mystérieux auteur, alter ego du poète, est appelé Mundi Fabricator, c'est-à-dire le fabricateur du monde. Grâce à lui, advient enfin la naissance de l'homme, rendue possible par la différenciation des composants de l'univers. L'histoire humaine, et avec elle l'histoire de métamorphose, se situera donc sur la marge étroite et fragile entre chaos total et ordre total. Le seul écosystème viable, biologiquement et artistiquement, est celui, à la fois organisé et versatile, que nous présente au livre 2 la description des portes du Palais du Soleil, texte 4. L'art surpassait la matière, car Mulcibère, il s'agit du dieu Vulcain, y avait ciselé les flots qui entourent la terre d'une ceinture, et le globe terrestre, et le ciel qui s'étend au-dessus de ce globe. Les eaux ont leur dieu azuré, Triton à la conque retentissante, le changeant Protée, et Géon pressant de ses bras les dos monstrueux des baleines, Doris et ses filles, il s'agit des Néréides. On voit les unes nager, les autres, assises sur un rocher, sécher leurs verts cheveux, d'autres voguer sur des poissons. Sans avoir toutes le même visage, elles ne sont pas non plus très différentes. Elles se ressemblent comme il sied à des sœurs. La terre porte à sa surface des hommes, des villes, des forêts, des bêtes sauvages, des fleuves, des nymphes et d'autres divinités champêtres de toutes sortes. Au-dessus de ces tableaux sont figurés le ciel resplendissant et les signes du zodiaque, 6 sur le bâton de droite, 6 sur celui de gauche. Ces vers offrent une miniature du poème lui-même et de la vision ovidienne du monde, mais aussi de la création littéraire, où règne constamment une émulation féconde entre la matière et l'art, avec comme moteur la métamorphose des formes physiques et poétiques, symbolisées ici par Protée et les Néréides. Très tôt donc, puis constamment, est affirmée l'instabilité d'un univers où tout est en mouvement perpétuel, fluctuant, fugitif, donc où tout est possible à chaque instant. À plusieurs reprises, Ovide montrera des retours ou des menaces de retour au chaos. Au livre 1, les dieux, révoltés par l'impiété et la violence des hommes, feront s'abattre un déluge sur la terre. Au livre 2, Phaéton, incapable de maîtriser le char de son père, le soleil, provoquera l'embrasement général, etc. Tout renaîtra toujours, mais ces renaissances seront le préalable à de nouveaux déséquilibres, à de nouvelles démesures, à de nouvelles fureurs. Ovide décrit ainsi la manière dont la vie se reconfigure après le déluge, texte 5. La terre enfanta d'elle-même les autres animaux sous des formes diverses. lorsque l'humidité qu'elle retenait encore se fut échauffée sous les feux du soleil, lorsque la chaleur eut enflé la fange et les eaux marécageuses, lorsque les germes féconds des choses, nourris par un sol vivifiant, se développèrent comme dans le sein d'une mère et prirent avec le temps des figures différentes. Ainsi, quand le Nil aux sept embouchures a quitté les champs inondés et ramené ses flots dans leur ancien lit, quand du haut des airs l'astre du jour a fait sentir sa flamme aux limons récents, les cultivateurs, en retournant la glèbe, y trouvent un très grand nombre d'animaux. Ils en voient qui sont à peine ébauchés, au moment même de leur naissance, d'autres imparfaits et dépourvus de quelques-uns de leurs organes. Souvent, dans le même corps, une partie est vivante, l'autre n'est encore que de la terre informe. En effet, lorsque l'humidité et la chaleur se sont combinées l'une avec l'autre, elles conçoivent. C'est de ces deux principes que naissent tous les êtres. Quoique le feu soit ennemi de l'eau, un rayonnement humide engendre toute chose, et la concorde dans la discorde convient à la reproduction. Donc, aussitôt que la terre, couverte de boue par le déluge récent, recommença à recevoir du haut des airs la chaleur des rayons du soleil, elle donna le jour à des espèces innombrables. Tantôt, elle rendit aux animaux leur figure primitive, tantôt, elle créa des monstres nouveaux. Ce passage dit la nouveauté radicale de l'univers ovidien, fondée, comme le montre l'oxymore « discorse concordia », littéralement une concorde discordante, sur une tension nécessaire, créatrice, entre la matière et elle-même. L'hybridité règne naturellement dans un tel biotope matériel et littéraire. Hybridité des formes, mais aussi des sensations, dans un poème synesthésique qui nous parle d'un monde synesthésique. Italo Calvino a employé à propos des métamorphoses l'expression « indistinti confini », frontières indistinctes, pour laquelle le traducteur a trouvé la belle formule de contiguïté universelle. Chez Ovid, les frontières existent et elles sont vitales, à l'image du geste d'ordonnancement effectué par le Mundi Fabricator au livre 1, c'était mon texte 3. Mais elles sont toutes susceptibles d'être franchies et la possibilité de ce franchissement est vitale, elle aussi, comme Ovid le fait dire à Pythagore au livre 15, texte 6. Rien ne conserve son apparence primitive. La nature, qui renouvelle sans cesse l'univers, rajeunit les formes les unes avec les autres. Rien ne périt, croyez-moi, dans le monde entier. Mais tout varie, tout change d'aspect. Ce qu'on appelle naître, c'est commencer une existence différente de la précédente. Mourir, c'est la terminer. Il peut se faire que les parties soient transportées de ci, de là, mais la somme de l'ensemble reste constante. Pour moi, je crois que rien ne peut subsister longtemps sous la même forme. »